Bonjour et bienvenue dans Encore Heureux. Docteur en sciences économiques, spécialiste de la décroissance, Timothée Parikh est un économiste français de 33 ans, actuellement chercheur à l'Université Lund en Suède. Son livre, Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance, est paru en septembre 2022 aux éditions du Seuil. Déjà vendu à plus de 30 000 exemplaires, je vous le recommande vivement. Il est disponible à la médiathèque Césaire de Bourg, enfin dès que je l'aurai rendu, et en attendant, je vous en fais découvrir quelques extraits. En avant pour la sobriété heureuse. La coutume de ce genre de livre aurait voulu que je commence par constater l'extrême gravité de notre situation. J'aurais dressé l'habituel inventaire des cataclysmes écologiques et de leurs conséquences sociales, choisi quelques chiffres chocs et agrémenté d'une histoire ou deux pour capter l'attention. Mais pourquoi perdre du temps? Tout le monde sait qu'il y a un problème sans précédent dans l'histoire de l'humanité. L'effondrement environnemental auquel nous sommes désormais confrontés impose chaque jour son lot de désastres, et rares sont ceux qui oseraient à présent contester l'écrasante responsabilité de notre espèce. Bienvenue dans l'Anthropocène. Coïncidant avec le début de la révolution industrielle, c'est le nom que les scientifiques ont donné à cette période où les activités humaines ont de fortes répercussions sur les écosystèmes de la planète. Ce serait donc l'humanité dans son ensemble, Anthropos, la tapageuse famille Sapiens, à qui reviendrait la responsabilité de l'apocalypse. Une faute générale dont chacun aurait également à rougir et dont l'expiation ne saurait être que collective. Toute l'humanité? Vraiment? En 2021, les 10% des ménages les plus riches au monde possèdent 76% du patrimoine global et captent plus de la moitié de tous les revenus, soit 38 fois plus de richesses et 6 fois plus de revenus que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Pire, les 1% les plus riches, seulement 51 millions de personnes, ont capté 38% de toute la richesse créée depuis 1995, alors que la moitié la plus pauvre de l'humanité n'en a reçu que 2%. Même situation dans un pays comme la France, où le décile le plus fortuné possède près de la moitié du patrimoine national et capte un tiers de tous les revenus. Qui dit droit à la fortune ? Dit « droit à polluer ». Les 10% des plus riches à l'échelle de la planète sont responsables de la moitié des émissions totales de gaz à effet de serre. La symétrie entre richesse et émissions est presque parfaite. Cette élite de la pollution pollue 4 fois plus que la moitié la plus pauvre de l'humanité. L'injustice de cet apartheid planétaire est double. Les riches polluent, et les pauvres subissent. Le pêcheur somalien qui voit son poisson se raréfier et le niveau de la mer monter n'a probablement jamais pris l'avion. Il n'a participé ni au réchauffement dont il hérite, ni à la surpêche. Pourtant, il en paiera pleinement le prix et parmi les premiers. Ce sont les populations les plus vulnérables, à commencer par celles des pays les plus pauvres, qui boivent l'eau polluée, respirent des fumées toxiques, vivent près des décharges, souffrent des inondations et des canicules. La notion d'anthropocène masque de profondes inégalités. Même si nous sommes tous de la même espèce, nous ne sommes égaux ni en termes de responsabilité, ni en danger encouru face aux catastrophes écologiques d'aujourd'hui et de demain. Disons-le clairement, l'effondrement écologique n'est pas une crise, c'est un tabassage. Le dérèglement climatique est une violence lente et diffuse, une usure qui s'exerce progressivement et hors de vue. Aujourd'hui principalement contre les populations les plus paupérisées, mais qui va peu à peu remonter l'échelle sociale. Cette situation n'a rien à voir avec une supposée nature humaine. Elle est plutôt le symptôme d'une organisation sociale spécifique, étroitement liée à une certaine vision politique du monde. C'est du moins l'argument que je défendrai à travers ce livre. La cause première du déraillement écologique n'est pas l'humanité, mais bien le capitalisme, l'hégémonie de l'économique sur tout le reste et la poursuite effrénée de la croissance. Oublions donc l'anthropocène et préférons-lui les termes de capitalocène, d'éconocène et de pibocène. Ne faisons pas de détour. L'économie est devenue une arme de destruction massive. L'économiste Serge Latouche reprend dans ses écrits la terminologie de Hannah Arendt et parle de banalité économique du mal. Un système qui orchestre le massacre du vivant tout en diluant les culpabilités de ceux qui en sont responsables. Chacun s'attelle diligemment à sa tâche, justifiant son action en se disant que s'il décidait de ne pas le faire, d'autres le feraient à sa place. Combien d'employés de banques se pressent à inventer des produits financiers toxiques et combien d'ingénieurs s'appliquent à concevoir des superyachts? Combien de cadres licencient pour motifs économiques? Combien de publicitaires promeuvent des produits nocifs et futiles? Combien d'ouvriers d'abattoirs brutalisent et assassinent machinalement des animaux? Combien de lobbyistes mentent pour protéger les intérêts des énergies fossiles? Il faut bien que je paye mes factures, répondront ceux à qui l'on reproche de détruire le monde. Si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Cette violence est un phénomène émergent, une sorte de désordre spontané que personne n'a directement anticipé et qu'entretiennent jusqu'à l'absurde nos comportements sociaux les plus anodins. Il faut rembourser un prêt, payer une facture, satisfaire les actionnaires, faire du chiffre. Nous sommes otages d'un système qui prédétermine en partie des comportements qui seraient autrement jugés immoraux. Prêterions-nous à nos amis de l'argent avec des taux prédateurs? Ferions-nous de la publicité pour contraindre nos proches à acheter des produits dont ils n'ont pas besoin? Déciderions-nous de licencier un ami car quelqu'un à l'autre bout de la planète peut travailler pour moins cher? Non, évidemment. Si la mine de cobalt se situait dans mon jardin et que mes enfants travaillaient dedans, j'y réfléchirai à deux fois avant de changer de téléphone portable. Pour autant, nous n'avons pas le choix. L'économie s'impose à nous à travers certaines règles qu'il est convenu de respecter. Un prix, un contrat de travail, un prêt immobilier, des règles comptables. Le problème n'est pas l'existence de l'économie en soi. Toute société a toujours organisé d'une manière ou d'une autre ses activités productives, mais bien les règles que nous lui donnons aujourd'hui, ainsi que l'objectif central qui l'anime. La croissance. Que ce soit celle du revenu des individus, du profit des entreprises ou bien du PIB d'un pays, il semblerait qu'en économie, plus soit toujours synonyme de mieux. Mais qu'est-ce que la croissance? Le mot est omniprésent mais jamais vraiment expliqué et encore moins déconstruit. Argument magique des campagnes électorales, inusable réponse au désespoir des ménages, il a tant pénétré l'imaginaire de nos contemporains qu'aucun d'entre eux ne s'interdit plus d'exprimer son opinion sur la question. Or, rares sont ceux qui savent non seulement ce qu'est la croissance et comment on la mesure, mais aussi les liens complexes qu'elle entretient avec la nature, l'emploi, l'innovation, la pauvreté et les inégalités, la dette publique, la cohésion sociale et le bien-être. Née d'une notion comptable dans les années 30, le produit national brut, elle est devenue un mythe aux mille connotations. Progrès, prospérité, développement, protection, innovation, pouvoir, bonheur. La croissance n'est plus seulement un indicateur, c'est un vase symbolique rempli de projections collectives et individuelles. Croissance verte, croissance circulaire, croissance inclusive et croissance bleue, 50 nuances de croissance, mais croissance toujours. L'emprise de cette matrice croissantiste sur notre imaginaire collectif est telle qu'au lieu de considérer les conséquences de notre modèle économique sur la planète, nous nous inquiétons des impacts du réchauffement climatique sur le PIB. C'est le monde à l'envers. La croissance avait autrefois une fonction claire, relancer l'économie américaine après la Grande Dépression, produire les équipements nécessaires à la guerre, sortir de la famine, éradiquer la pauvreté, assurer le plein emploi ou reconstruire l'Europe. Sa mesure permettait d'évaluer la progression vers ces différentes finalités. Au fil des décennies, l'indicateur est devenu l'objectif. La croissance pour la croissance, sans plus aucun but sous-jacent. Mais produire pour produire est un objectif sans substance. Nous, habitants des pays sur qui le reste du monde lève des yeux envieux, continuons de sacrifier notre temps et nos ressources pour produire et consommer davantage, alors que nous n'avons plus rien à gagner et beaucoup à perdre, à s'obstiner à faire croître notre PIB. On peut faire l'analogie avec un jeune adulte qui, venant de terminer sa croissance, s'entêterait à vouloir gagner en taille, sans comprendre que passé un certain âge, grandir ne se mesure plus en centimètres. À l'heure où j'écris ces lignes, chaque centimètre supplémentaire s'obtient dans la douleur. La terre est en surchauffe, les sociétés en burn-out, et le PIB devient une sorte de compte à rebours de fin du monde. Un compte à rebours redoutable, car exponentiel. Plus l'économie est grosse, plus elle grossit vite. Un taux de croissance de 2% par an fait doubler la taille de l'économie tous les 35 ans. Nous sommes à bord d'un bus, fonçant à pleine vitesse et de plus en plus vite vers une falaise, et nous acclamons chaque kilomètre heure en plus comme du progrès. C'est insensé. Maximiser la croissance, c'est mettre le pied sur l'accélérateur avec la certitude à terme de périr dans un effondrement social et écologique. Alors on peut parler d'atterrissage, de régime, de décroissance, de désescalade, de descente, d'harmonisation, de sobriété, ou suggérer n'importe quelle autre analogie. Le défi qui se tient devant nous est celui du moins, du plus léger, du plus lent, du plus petit. C'est le défi de la sobriété, de la frugalité, de la modération et de la suffisance. Mais il s'agit bien d'un atterrissage, non d'un crash, d'un régime, non d'une amputation, d'un ralentissement, pas d'un arrêt. Nous savons qu'il faut ralentir, et il va maintenant falloir imaginer comment planifier intelligemment cette transition pour qu'elle se fasse de façon démocratique, dans le souci de la justice sociale et du bien-être. Pour ce faire, il faudra se libérer de la mystique de la croissance. C'est un triple défi qui nous attend. Comprendre en quoi le modèle économique de la croissance est une impasse, dessiner les contours d'une économie de la post-croissance et concevoir la décroissance comme transition pour y parvenir. Je défends à travers ce livre une idée simple, mais radicale. La croissance est devenue un problème existentiel. Notre survie dépend désormais de notre capacité ou non à changer de modèle économique.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore Heureux.
L'augmentation du PIB est corrélée à une augmentation du bien-être en dessous d'un certain niveau de revenu par habitant. Au-delà de ce niveau, les effets s'inversent. L'augmentation du PIB devient néfaste, surtout quand celui-ci est distribué inéquitablement. Dit autrement, dans un pays comme la France, la croissance ne fait plus le bonheur. Ceci étant dit, une baisse drastique et mal organisée des activités économiques, c'est-à-dire une récession, pourrait détériorer la qualité de vie. D'où cette réflexion, la décroissance vise à réduire la production et la consommation, mais dans le souci du bien-être. La façon la plus facile de faire baisser l'empreinte écologique tout en maintenant la qualité de vie est de renoncer aux produits très polluants qui contribuent peu au bien-être. Si l'on veut réduire les vols en avion, par exemple, on commencera par les fréquents week-ends de vacances des ménages les plus aisés et par les vols humanitaires et les réunions familiales. Si on veut réduire le nombre de grosses voitures polluantes, on commencera avec les véhicules particuliers dans les grandes villes et non par les ambulances et les secours de haute montagne. Une rapide comparaison internationale nous montre que les marges de manœuvre pour la décroissance sont gigantesques. Pour une qualité de vie similaire, l'empreinte carbone moyenne d'un Costaricain ne dépasse pas les 3 tonnes équivalent CO2, alors que celle d'un Français est d'une dizaine de tonnes, et celle d'un Américain proche de 15 tonnes. Pour organiser la décroissance dans le souci du bien-être, il faut apprendre de ces pays qui parviennent à découpler bien-être et empreinte écologique. Dans les 106 pays étudiés, la qualité des services publics, la redistribution des revenus et la démocratie sont des stratégies statistiquement plus efficaces pour améliorer le bien-être et bien moins intenses écologiquement que la croissance du PIB. Une politique de décroissance heureuse consisterait donc à étendre l'accès à des services publics de qualité, par exemple via la gratuité, santé, éducation, transport en commun, gestion de l'eau, accès à Internet, téléphonie et autres biens et services essentiels seraient financés collectivement par cotisation selon le modèle de la gratuité socialisée et gérés de la manière la plus locale et démocratique possible, dans une logique de non-lucrativité. La tarification de ces biens et services serait progressive, gratuite, gratuité des choses indispensables et renchérissement progressif des consommations pour pénaliser le gaspillage et le mésusage. Répétons-le, ce qui compte vraiment pour le bien-être n'est pas le pouvoir d'achat, mais le pouvoir de vivre. À quoi bon protéger le porte-monnaie des consommateurs lorsque la logique même de la production lucrative vise à vendre au prix le plus élevé possible ? Ce n'est pas un problème de pouvoir d'achat, c'est un problème de pouvoir de vente, devenu pour les grandes entreprises en situation de quasi-monopole un super pouvoir de vente. Il faudrait plutôt encadrer les prix des choses essentielles pour les rapprocher des coûts réels de production, ce qui viendrait dégonfler tous ces secteurs aujourd'hui dopés par les marges déraisonnables des entreprises capitalistes. Suivant le modèle viennois, les prix de l'immobilier ne pourraient dépasser un prix maximum. Et même chose pour le prix des médicaments, des assurances et de toutes ces autres choses sans lesquelles on ne pourrait vivre décemment. Cela nous donne une feuille de route claire pour maintenir et augmenter le bien-être pendant le grand ralentissement de l'économie. Classons-les en 2 grandes catégories, la déconsommation et la non-production. Derrière la question de la production se trouve celle du travail et de son utilité. Pendant le confinement, beaucoup se sont demandé si leur activité professionnelle justifiait le risque de propager le virus en se rendant sur leur lieu de travail. La question est aujourd'hui similaire. Est-ce que mon activité professionnelle justifie le risque d'un effondrement écologique ? Et plus généralement, à l'échelle de chaque territoire et de chaque entreprise, de quoi avons-nous vraiment besoin ? C'est une question de priorité. Nous devons ralentir les activités les plus polluantes et les moins utiles afin de préserver celles que l'on considère comme essentielles et qu'il faudra alors verdir le plus possible. On se souvient de l'une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, que soit inscrite sur la publicité des produits les plus polluants la mention « En avez-vous vraiment besoin ?» La surconsommation nuit à la planète. Se désencombrer des possessions et des envies auxquelles on tient peu serait une façon de réordonner nos priorités et de redistribuer certains de ces objets. Une économie ou une organisation comme Emmaüs deviendrait beaucoup plus importante qu'Amazon. Ce processus commence à l'échelle individuelle, avec une réflexion de simplicité volontaire, un peu comme la technique de déconsommation de la japonaise Marie Kondo, qui consiste à évaluer chaque possession avec la question « Est-ce que cette chose vous rend heureux ?» La réflexion continue ensuite à l'échelle locale, pour discuter des possessions que l'on pourrait mettre en commun, pour en partager l'usage, le covoiturage, les ressourceries de quartier, les boîtes à outils collectives, les boîtes à livres, les réseaux de partage en ligne, les gymnases en plein air, les encyclopédies en ligne et même la mise en commun des machines à laver. Et des choses qui pourraient devenir inutiles si l'on s'organisait pour les faire disparaître, les bouteilles d'eau, les hôtels et les voitures, rendues inutiles par l'existence de fontaines publiques, de réseaux d'hébergement réciproques et de transports en commun. Avant de crier au sacrifice, réalisons que la plupart des activités les plus importantes pour notre bien-être ont une très faible empreinte écologique et ne sont pas considérées à proprement parler comme du travail et des marchandises. Passer du temps entre amis, se balader dans la nature environnante, lire et faire de la musique, ou encore participer à des débats politiques. Produire moins ferait baisser le temps de travail et viendrait donc libérer du temps pour produire toutes ces choses que le PIB ne mesure pas et pour profiter de toutes les richesses que l'on a déjà. On pourrait donc travailler moins pour vivre mieux, renoncer à concevoir de plus grosses voitures, à bâtir des antennes 5G et à développer le tourisme spatial pour pouvoir s'adonner à une vie associative et politique riche de sens. La décroissance économique serait alors une immense croissance intellectuelle, hédoniste, humaniste et écologiste, et un formidable progrès pour nos sociétés. Pour terminer, après 6 années passées à étudier l'absurdité de l'idéologie de la croissance, je ne trouve pas meilleure formule que ce célèbre proverbe amérindien. Quand le dernier arbre aura été coupé, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors seulement vous découvrirez que l'argent ne se mange pas.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore heureux.
Chers auditeurs, merci. J'espère que cette lecture vous aura intéressé. Je vous recommande chaleureusement l'émission Court-circuit sur Radio B, consacrée à l'environnement et aux questions écologiques, et dont vous trouverez l'intégralité des podcasts sur le site de Radio B. Nous nous quittons avec la chanson révision du lycée Jules Froment d'Aubenas. Bel été à tous, à bientôt sur les bonnes ondes.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, un nouveau chapitre passionnant. Comment concilier la croissance économique avec la préservation de l'environnement? Du coup, 3 parties, le développement durable, et ensuite, les 2 visions, la soutenabilité faible et la soutenabilité forte. Ok? Allez, vous prenez des notes. Bon, ça vous intéresse pas? Ok, on va faire autrement.
Brut de l'onde sur la table,
signer la naissance du développement durable.
Les nations prennent conscience des limites du PIB,
qu'on appelle dans le métier les externalités.
L'air et l'eau sont pollués, les ressources disparaissent.
Pour nos enfants, dis-moi, qu'est-ce qu'on laisse?
Durable ou soutenable, c'est la même notion.
Ouais, mais mec, en fait, il y a 2 dimensions. PIB, PIB, tout le monde ne jure que par le PIB. C'est une somme de valeur ajoutée. PIB, PIB. On parle que du PIB, la richesse créée au cours d'une année. Plus de pouvoir d'achat, moins de monde à Pôle emploi, des recettes pour l'État et une dette qui s'en va. La croissance à tout prix, c'est la règle et c'est le but. Plus de classe, plus de lutte, juste plus de produits intérieurs bruts.
Majeure serait la conciliation
entre croissance économique et conscience écologique. PIB, PIB, tout le monde ne jure que par le PIB. C'est une somme de valeur ajoutée. PIB, PIB, on ne parle que du PIB. La richesse créée au cours d'une année. Plus de pouvoir d'achat, moins de monde à Pôle emploi. Des recettes pour l'État et une dette qui s'en va. La croissance à tout prix, c'est la règle et c'est le but. Plus de classe, plus de lutte, juste plus de produits intérieurs bruts.
Soutenabilité forte, c'est une autre vision.
La biodiversité serait non négociable.
Sans modification de nos modes de consommation,
la disparition des espèces devient inévitable.
Rien ne pourra remplacer le capital naturel.
Tout ça va faire de la terre une vaste poubelle.
Quand le climat sera totalement déréglé,
même le progrès technique ne pourra rien changer. PIB, PIB, tout le monde ne jure que par le PIB. C'est une
produit intérieur.